Alors, Catherine Lové, Olivier May, Jean-Paul Didier Laurent au milieu. Et je veux commencer avec vous, Catherine, vous connaissez bien la Suisse et Manche, puisque votre éditeur est un éditeur suisse. Mais vous connaissiez déjà le salon ?
Les micros marchent. Oui. Oui, je suis venue pour la première édition du salon, si je ne fais erreur, en 2010, pour un roman russe et drôle. Voilà, je n'étais pas revenue depuis. Et puis, je pense qu'on constate tous la même chose, à savoir que le cadre est extraordinaire, qu'on a donc beaucoup de chance. Et pour mettre un petit peu de suspense, et s'il pleuvait, que se passerait-il ? Voilà.
C'est vrai. Et c'est vrai que je n'ai pas encore vu la pluie ici. Est-ce que vous, Jean-Paul, vous connaissiez déjà le salon ?
Moi, j'ai eu la chance d'y venir la première fois en 2014 pour mon premier roman. Et j'ai eu la chance tous les ans d'être réinvité. Donc, ça fait 3 fois que je viens à Morges. Et ça devient une trop bonne habitude parce que l'année prochaine, j'y serai sûrement pas et je vais pleurer. Parce que Morges, c'est... Ben moi, ce que je retiens de Morges, c'est la lumière. Je trouve que c'est un salon hyper lumineux, mais pas que par la lumière du lac, mais aussi par la lumière des lecteurs qui passent nous voir, parce qu'ils sont tous très... Ils sont raccord avec l'écrin dans lequel on est, je trouve. C'est vraiment un salon unique, quelque part.
Vous connaissiez de toute façon, Olivier, mais vous connaissiez le salon ?
Alors oui, c'est la 3e année consécutive que j'ai la chance... C'est une vraie chance d'y être invité. Je suis à la fois auteur jeunesse et auteur de romans pour adultes. Alors, c'est la première fois que je suis du côté adulte, à la frontière avec la jeunesse. Donc, c'est un petit peu différent comme ambiance. C'est moins étouffant, bien que j'adore les enfants, il n'y a aucun problème. Mais c'est vraiment, l'année passée, je ne pouvais pas me lever parce qu'il y avait tout le temps quelqu'un, etc. Là, ça va un petit peu mieux, c'est un petit peu plus calme. Je dirais aussi que s'il devait rester qu'un salon, si on veut, c'est le coup de l'île déserte, là. Hein, s'il devait rester qu'un salon, j'aurais le droit qu'il y ait un salon, ça serait bien entendu Morges.
Voilà. Moi, je dis pareil. J'ai fait des salons du livre toute l'année. Mais sincèrement, ce que je disais tout à l'heure sur le public est vrai. C'est la première fois que je vois des gens aussi curieux, aussi patients. Et qui lisent autant, parce qu'en fait, vous êtes assez nombreux à acheter les livres. Alors, le thème de notre rencontre cet après-midi est Brocardet, la société contemporaine. Et ce qui est génial, c'est que les 3 livres traitent évidemment de notre monde avec ses turpitudes d'aujourd'hui, mais d'une manière très différente, les 3. Je l'ai égaré dans la bataille, le Jihad Jen, le dernier... d'Olivier May. Est-ce que vous l'avez, quelqu'un là, par hasard ? Voilà, ça me permettra... Vous voyez, quand je vous dis que le public est formidable, je perds un livre en route et on le retrouve. Et on le trouve ici. Je compte aussi, maintenant, plus sérieusement, le fait que nous soyons ici bien au frais, pas dans la chaleur dehors, et de ne pas être très nombreux est aussi une occasion de poser vos questions à vous, aux auteurs. Et moi, je trouve que c'est toujours plus facile quand on est moins nombreux, et je vous invite vraiment à le faire. Alors voilà, les livres dont nous parlerons aujourd'hui, Monsieur et Madame Rivaz, de Catherine Lové, Jihad Jen, d'Olivier May, et Le reste de leur vie, de Jean-Paul Didier Laurent, que vous aviez peut-être déjà lu avec le liseur du 6-23. 25, pardon. Le 23. Oui, bah, je vais y arriver. Bon, je vais lire ma feuille. Pour ne plus, moi, je l'avais lu, le liseur aussi. Mais justement, pour arrêter de dire de bêtises de fin de journée, je vais vous lire qui sont-ils pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas. Alors, Catherine Lové, vous la connaissez sans doute d'ici. Elle est originaire du Valais. Née en 1967 au sein d'une famille de paysans de montagne. Je parle sous votre contrôle. Vous êtes plongée très tôt dans la lecture et dans l'écriture. Après des études en relations internationales, complétées par un diplôme en criminologie, elle travaille en tant que journaliste de presse écrite, spécialisée sur les questions économiques et financières. En 2005, elle publie son premier roman, L'homme interdit, suivi de 5 vivants pour un seul mort en 2008 et d'un roman russe et drôle en 2010. Véritable romancière, Catherine Lové crée des univers narratifs de crise qui poussent ses héros à mettre en doute leur identité même, et c'est bien cela qui va nous arriver dans ce livre, Monsieur et Madame Rivaz. C'est une histoire de rencontre qui va changer la manière de voir le monde et sa vie de notre personnage. Nous en parlerons plus longuement dans quelques instants. Olivier May, après des études d'anthropologie préhistorique et d'histoire, Olivier May enseigne, comme il le dit, à l'école secondaire, où il est actuellement doyen dans un collège genevois. Vous avez publié votre roman Excision chez Encre Fraîche en 2010. Les enfants de la Louve, votre premier roman préhistorique illustré pour la jeunesse, est paru en 2013 chez Flammarion. Et aujourd'hui, c'est avec Djihad Djé et autres nouvelles que vous venez nous faire interroger sur l'extrémisme, la mort, la procréation, la chirurgie esthétique, dans deux pages qui se lisent d'une traite et poussent à réfléchir. Vous allez le voir dans quelques instants également. Et enfin, Jean-Paul Didier Laurent, il vit dans les Vosges, en France. D'abord lauréat de nombreux concours de nouvelles, trois fois finaliste et deux fois lauréat du prix Hemingway. Ses nouvelles l'ont révélé dans le milieu littéraire. Son premier roman, Le Liseur, du 6-27, il faut que je vois d'où mon lapsus du 23, c'est l'heure, sincèrement, à laquelle je voulais finir la rencontre d'avant pour avoir le temps d'arriver ici. Et je pense que c'est pour ça. Le Liseur du 6-27, paru au Diable Vauvert en mai 2014, s'est vendu à 65 000 exemplaires et à près de 200 000 exemplaires chez Folio, ce qui est une prouesse pour un livre d'un auteur pas du tout connu avant et un livre qui n'est pas ce qu'on appelle une lecture facile de premier abord, en tout cas pas très grand public de premier abord. Alors parmi les prix reçus, je vais citer le prix du roman d'entreprise et du travail, le prix Michel Tournier, le prix du festival du premier roman de Chambéry, du livre Pourpre, le prix Complètement Livre et de nombreux autres prix de lecteurs. Votre livre donc est traduit dans 29 pays en cours d'adaptation au cinéma par Mandarin Film. Vous avez publié... des nouvelles également, je l'avais dit, mais on va peut-être y revenir tout à l'heure. Aujourd'hui, nous parlerons surtout de votre dernier, Au Diable Vauvert, toujours, Le Reste de leur vie. Bonjour à tous les trois, dans le désordre. Et mon autre question générale, avant de rentrer dans le sujet de votre livre, et cela nous permettra peut-être d'y arriver un peu, c'est dans quelle couleur voyez-vous notre monde d'aujourd'hui ? Puisque le titre de notre rencontre est « Brocarder la société contemporaine » et que vos livres sont, moi si je leur donnais des couleurs, ils auront des couleurs très différentes justement. Olivier May.
Alors ça dépend, si on parle de Djihad Djé, bien entendu ça a l'air très noir, style le plus noir des vêtements recouvrant la femme dans certains pays. Mais je ne vois pas la vie comme ça, puisque j'écris aussi pour les enfants, et donc je vois aussi toutes sortes de très belles couleurs pastels. Donc voilà, on pourrait dire que tout ça mélangé, ça ferait quelque chose entre le violet et le gris. Voilà.
Il y a un peu d'orange aussi dans votre livre, je trouve. Jean-Paul.
Or, personnellement, moi, j'adore les contrastes, mais je vais faire une réponse un peu étrange, dans le sens où une de mes couleurs préférées, c'est le gris, malgré le fait que j'adore les contrastes, parce que je trouve que dans le gris, c'est pas une couleur, le gris, il y a tellement de gris différents, des gris bleus, des gris verts, des gris roses, selon la petite touche en plus ou en moins qu'on va mettre de loin, on dira c'est un gris, mais si on regarde de près, ben oui, et moi j'aime... Il n'y a rien qui est noir, qui est blanc dans notre univers, donc c'est ce côté-là que j'aime bien aussi dans le gris.
Gris ou athé ? Gris clair ou athé pour votre livre ? Ça irait ?
Pas mal.
Oui, moi je trouve. Je trouvais. Alors pour Catherine, j'ai eu plus de mal pour la couleur, donc j'ai... Vous mettrez quelle couleur ? J'ai eu vraiment plus de mal.
Et vous-même ? Et vous-même ?
Au début, j'aurais mis pas mal de gris. Du gris un peu plus, plus nuage, pas net, on ne sait pas s'il va pleuvoir ou pas. Et après, ça change, mais je ne veux pas trop dévoiler le livre en donnant la couleur. Vous mettriez quelle couleur, vous ?
D'une façon générale, je suis comme Jean-Paul. J'aime beaucoup le gris, parce qu'il me semble que la littérature est quand même au centre des choses qui ne sont ni noires ni blanches. Parce que noir et blanc, c'est facile, c'est très rassurant. On décide, puis c'est noir, c'est blanc, ça nous plaît, ça ne nous plaît pas. Et notre vie, comme la littérature, est dans une sorte d'entre-couleur un peu dérangeante. Et on essaie d'apprivoiser ce côté instable et intranquille. Pour Monsieur et Madame Riva, je pense que la couverture dit beaucoup de choses. Et il y a du jaune. Et en l'occurrence, il y a du jaune qui est donné par une sorte de lumière assez forte. Et dans mes romans, il y a souvent du jaune qui est lié à un rire qu'on appelle jaune, justement.
Oui, ouais. Bien décrit, je crois bien. Alors, monsieur et madame Riva, c'est l'histoire. Je ne vais pas le dévoiler, parce que on va essayer d'en parler sans trop dévoiler le contenu de livre pour que vous gardiez le plaisir de lecture. C'est l'histoire d'une jeune femme, la tarlatrice, qui se trouve un peu au pied levé par un hasard, mais est-il vraiment seulement des hasards dans la vie, accompagnatrice de croisière pour remplacer une de ses amies, clouée au lit par un mal de dos. Elle va partir en croisière avec un jeune homme. Ils vont faire l'amour sur le bateau parce qu'on ne sait pas trop pourquoi, en fait. Et moi, je trouvais ça, c'est ça que je trouvais très intéressant dans votre manière de débuter le livre, Catherine Levé. C'est que dès le début, on rentre dans la vie de cette femme qui est un peu entre deux âges, presque entre deux eaux. Elle a une vie qui va bien. Mais elle sait pas trop. Elle vit sa vie au jour le jour, mais comme ça. Pourquoi couche-t-elle donc avec cet homme sur le bateau? Est-ce qu'elle va vouloir l'aimer après? Est-ce qu'elle se sent attirée? On ne sait pas. Et c'est cette fille-là qui rencontre dès le début Monsieur et Madame Riva, qui eux ne ressemblent à rien de ce que nous connaissons aujourd'hui, parce que Monsieur et Madame Riva ont reçu un cadeau d'anniversaire, je crois, de la part de leur fils avocat et très débordé, une magnifique croisière de luxe. Et donc, ils vont apprendre à notre narratrice, qui est leur accompagnatrice, qu'ils ne feront pas la croisière. Et c'est un peu cela qui va changer le regard de notre narratrice aussi sur sa vie. Parce qu'elle va être... Bon, voilà, ils ne vont pas, pour résumer, ils ne vont pas faire la croisière. Elle va les rencontrer, parce qu'évidemment, il va y avoir des soucis. Le fils qui veut récupérer l'argent, la société qui n'est pas contente. Et c'est la rencontre de monsieur et madame Riva chez eux, dans ce cadre paisible de la montagne, qui lance le livre et qui pose le livre, en fait. Et je laisserai surtout l'auteur nous en parler de cette narratrice, de comment... est-ce que, c'est une question toute bête de lecteur, mais est-ce qu'au moment où vous commencez l'écriture du livre, vous avez déjà imaginé où vous voulez aller, ou vous aviez juste une envie de personnage de cette fille-là, qui est une fille d'aujourd'hui, la quarantaine?
Non, je commence jamais un livre avec ni une idée, ni une envie, ni une intention, ni un projet. Et du début jusqu'à la fin du travail d'écriture, je n'ai à aucun moment la moindre idée de comment les choses vont se dérouler et avancer, précisément parce que c'est par l'écriture que je cherche ça. C'est l'écriture qui me conduit. Mais pour être plus concrète, je dirais que Monsieur et Madame Riva, qui s'appellent en l'occurrence Juste et Hermine Riva, sont en effet des personnes âgées. Et contrairement à beaucoup d'entre nous dans la société, contrairement à la société, ce sont des personnes qui osent dire non extrêmement tranquillement, sans revendiquer quoi que ce soit, sans expliquer quoi que ce soit, simplement parce que ils savent ce qu'ils veulent et ils savent très bien ce qu'ils ne veulent pas. Et leur façon de dire non dans le livre, dès le début du livre, a en effet des conséquences assez grandes, et notamment sur cette narratrice qui est une jeune femme, comme vous l'avez décrite, une jeune femme contemporaine. Je m'intéresse au monde contemporain, puisque c'est celui dans lequel je vis, avec un regard qui est un regard qui ne juge pas, mais qui observe beaucoup et qui observe les choses dans leurs plus petits détails et leurs plus petites nuances. Et ce que j'essaie de faire à travers l'écriture, c'est que toutes ces petites choses qui nous échappent jour après jour, parce qu'on est tous pressés, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a peur, parce qu'on est angoissé, parce qu'on craint le lendemain, parce qu'on craint de ne pas être à la hauteur, et donc on refuse de se poser ces questions, eh bien, dans la littérature, je prends le temps. À travers mes personnages qui existent et qui ont leur personnalité et qui ne vont pas délivrer un message, d'être attentive à toutes ces petites choses. Et je dirais que l'attitude de Juste et Hermine Riva, qui sont plutôt le fil rouge du livre, ce ne sont pas eux qui agissent, je ne raconte pas leur vie non plus, mais leur présence et tous les moments où ils rencontrent la narratrice, cette attitude qu'ils ont, au fond, éclaire l'état de la société contemporaine.
Exactement. Et ce qui est merveilleux dans votre livre, c'est la manière dont vous nous amenez à comprendre que la bonté est aussi une alternative à nos vies d'aujourd'hui. On en parlera peut-être tout à l'heure. Donc voilà, dans le premier livre, on va essayer de placer un peu nos livres. Dans le premier, nous sommes aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, dans une société de consommation, dans un monde très commercial au début. Dans celui, je vais utiliser l'ordre, dans celui de Jean-Paul Didier Laurent, nous sommes aussi chez des personnes âgées, mais c'est une autre couleur, c'est un autre univers. Et c'est un livre qui est écrit, qui est très facile à lire, je trouve, parce qu'il écrit justement à la manière de nouvelles, avec des petits tableaux chez les uns ou chez les autres. Mais pour éviter que ce soit juste moi qui parle pendant toute la rencontre, je vais vous demander à vous aussi de nous raconter qui est cette jeune femme pétillante que vous avez imaginée, qui est ce jeune garçon qui n'a rien à faire dans son métier, en tout cas de premier abord. On le regarde avec notre regard de notre société d'aujourd'hui. Et on découvrira plus tard pourquoi sont-ils heureux et comment dans votre livre. Mais je vous laisse nous dire qui sont-ils.
Alors tout d'abord, cette jeune femme, qui s'appelle Manel, elle est aide à domicile, ce qui signifie qu'elle se rend chez les domiciles des personnes âgées pour les aider à vivre leur quotidien. Ce sont des personnes âgées qui ont choisi, enfin qui veulent rester le plus longtemps possible à leur domicile, mais qui ont besoin pour ça d'un petit coup de main. Donc certains ont droit à une heure par jour, d'autres un peu plus, d'autres moins. Et donc comme ça, ce qui m'intéressait dans ce personnage, c'est que moi qui aime bien les nouvelles, ça me permettait un peu à chaque fois d'écrire une nouvelle avec une nouvelle rencontre. Et je supposais que dans un tel métier, on a des relations humaines où la relation humaine est primordiale. On a affaire à toutes sortes de gens avec lesquels ça peut très bien se passer. Il peut y avoir des atomes crochus très importants. Et puis avec d'autres, ça peut être plutôt le contraire, des relations très difficiles, voire haineuses pour certains. Et moi, j'aimais bien l'idée de cette jeune femme, qui est une jeune fille plutôt jolie en plus, qu'on n'imagine pas forcément faire ce travail. Mais je la voyais avec son énergie, elle est très pétillante, elle est d'une énergie folle, mais en même temps, elle a les nerfs à fleur de peau parce qu'elle a subi des choses terribles étant très jeune, elle a subi une chose assez difficile. Donc, et c'est aussi une solitaire. C'est vrai que j'ai tendance souvent dans mes romans à prendre des personnages qui sont seuls. Mais j'aime bien parce qu'après, ça me permet de les faire rencontrer d'autres personnes, donc c'est plus facile, sans casser de couple.
Ouais, d'ailleurs, là, vous avez pris deux solitaires.
Oui, justement.
De vrais bons solitaires.
Et l'autre personnage très important du roman s'appelle Ambroise, qui est un jeune homme, qui a pour métier très particulier de s'occuper des défunts. Donc, il est thanatopracteur. Il embaume les corps. Il les rend le plus jolis possible pour les rendre aux familles et que le deuil puisse se passer de la meilleure manière possible. C'est un métier vraiment très spécial que j'ai découvert au décès de mon père. C'était d'ailleurs l'idée du roman est née là, au décès de mon père, parce que j'ai eu affaire, enfin, j'ai pas eu directement affaire à lui, mais c'est des pompes funèbres qui m'ont dit, écoutez, si vous voulez que votre père soit visible, que les gens puissent lui rendre hommage pendant 2 jours, le mieux, c'est qu'il aurait besoin d'un soin. J'ai dit, ben faites, parce qu'on appelle ça un soin, c'est assez étrange, mais c'est un soin.
Oui, mais après, quand vous le décrivez dans le livre, c'est tellement pointu,
oui,
et tellement minutieusement décrit,
c'est très
qu'on se demande comment vous avez pu savoir toutes ces choses-là.
J'ai assisté.
Jamais.
J'ai assisté.
Ah, vous avez assisté.
Oui, parce que dans toute l'histoire du roman, j'ai eu la chance de rencontrer un vrai thanato, par
ouais,
hasard.
C'est pour ça. Ouais.
On nous a présenté un soir de feria à Nîmes, en pleine fête. Un ami me présente une de ses connaissances. Je parle de livres. Je dis que je suis un passionné d'écriture. Voilà, j'ai un roman en projet avec un personnage principal qui serait thanatopracteur, etc. Et à la fin, au bout de 10 minutes, il me dit « Mais tu sais ce que je fais comme métier ?» Mais je dis « Non. » Il me dit « Je suis thanatopracteur. » Ah, c'est pas tous les jours qu'on en rencontre. Donc j'ai dit « Là, il y a des signes, il faut pas les lâcher. » Et d'ailleurs, je l'ai rappelé au moment où j'ai commencé l'écriture de livres, et ça m'a beaucoup aidé, parce que il m'a proposé de le suivre pendant 2 jours, chose que j'ai faite. Et ça m'a enrichi au-delà, ça a été au-delà de ce que je pensais. J'ai eu la chance de voir des choses qui n'étaient pas difficile, c'est-à-dire que c'était des personnes, des défunts qui étaient des personnes très âgées, qui étaient mortes de mort pas violente. Donc je l'ai vu travailler, j'ai vu comment il faisait avec les familles, etc. Son humanité, c'était très impressionnant. Et ça m'a touché, j'ai mis beaucoup de lui dans le personnage d'Ambroise. Et Ambroise, vous dites, on ne l'imagine pas Thanatos. Ben si, parce que justement, lui, il fait ce travail-là parce qu'il ne supporte pas la souffrance des vivants. Oui. Il a essayé de faire infirmier, mais il ne supporte pas aller voir les gens souffrir, alors qu'un mort, il ne souffre plus, un mort. Donc, ce qui l'intéressait, c'est de travailler pour les vivants, mais sans que ceux-ci souffrent.
Ce que je veux dire, c'est que, enfin, moi, je regardais avec les yeux de sa famille, on ne l'imagine pas Thanatos, puisque son père est une célébrité, un médecin qui a rêvé, évidemment, que son fils serait
médecin. Son père est prix Nobel et il l'a prénommé Ambroise à sa naissance. C'est parce qu'il avait des prétentions médicales pour son fils, en référence à Ambroise Paré. Donc, on suppose tout de suite le poids qu'il avait sur les épaules à sa naissance. Son père l'a essayé de lui faire faire médecine, ça n'a pas marché. Infirmier, il n'a pas pu. Et quand il a annoncé à son père qu'il voulait faire Thanatos, son père a dit, si c'est pour t'occuper des morts, tu fous le camp de la maison, je ne veux plus te voir ici. Il l'a chassé de chez lui.
Donc voilà pourquoi un solitaire, parce que sa mère est décédée, parce qu'il est en rupture avec son célèbre père. Il vit donc avec sa grand-mère, si
ma mémoire est bonne.
Haute en couleur, oui. vous la découvrez dans le livre. Et puis, si je ne mélange pas à force de lire des livres, je pense que l'action de votre livre se passe aussi à Morges, partie. En Suisse, pour une des histoires de fin de livre qu'on ne vous dévoile pas. Mais
j'avais
avant,
pas
je
le choix.
Pourquoi remettez-moi le...
Il fallait que ça se passe en Suisse. Enfin, toute une partie du roman devait se dérouler en Suisse. Je me suis dit, j'ai pas réfléchi longtemps. Hein. Je me suis dit, bon, il y a Genève, Lausanne, comme grande ville. J'aurais pu prendre Bâle, j'aime beaucoup moins. Puis après, j'ai dit, mais Morges, je pourrais faire ça sur Morges. Je connais les quais. Je peux imaginer un hôtel 4 étoiles le long du quai sans le nommer, mais lui donner un autre nom. Le restaurant du club nautique, j'y avais mangé un soir, je m'en suis servi aussi. Enfin, ces passages-là, j'étais à Morges quand je les ai écrits. Dans ma tête, j'étais ici. Donc le salon du livre m'a aidé à l'écriture de ce roman. C'est très, très
c'est
étrange.
Très bien décrit,
et de se retrouver ici à dédicacer là où se passe une partie du roman, c'est un peu surréaliste.
Parce qu'on dévoilera peut-être tout à l'heure un petit peu plus de pourquoi aussi votre roman, qui n'est pas triste du tout, se passe ensuite. On parlera d'un autre volet de nos vies d'aujourd'hui et de nos questionnements sociétaux, qui est l'euthanasie. Mais avant, on va donner la parole aussi à Olivier May pour nous parler un peu. Votre livre, en fait, ce en quoi ils se ressemblent, et c'est la seule ressemblance, c'est qu'ils sont écrits aussi comme des nouvelles. D'ailleurs, le vôtre est cloisonné en chapitres qui sont complètement différents. Il s'appelle Diagen parce que c'est le nom d'une des nouvelles, mais il traite de sujets très, très différents, tous d'actualité. Je vais vous laisser nous raconter pourquoi les sujets et pourquoi avez-vous choisi, dans la multitude de sujets qui nous interrogent aujourd'hui, cela.
Alors, Diagen, c'est en fait la nouvelle à titre, si on veut. C'est un peu plus qu'une nouvelle. Moi, c'est un format que j'aime beaucoup, ce format novella. J'en ai écrit plusieurs. En fait, si vous voulez, c'est un peu le format d'Amélie Nothomb. Elles vendent ça comme des romans, mais c'est des novellas, en fait. C'est, dans notre jargon, quelque chose autour de 100 000 signes, on va dire, alors qu'une nouvelle, c'est en principe jusqu'à 50 000. Mais c'est des catégories qu'on peut faire exploser quand on veut. Moi, disons, je vois quand même une différence, c'est qu'on peut approfondir les personnages et sortir d'un cadre temporel trop restreint avec une novella. Alors, on a affaire à Jane, c'est une jeune fille qui a un très très lourd background, je dirais, difficile à digérer, c'est-à-dire qu'elle est plus ou moins abandonnée par sa maman. Sa maman vit avec elle, mais ne s'intéresse pas du tout à elle. L'école est un peu sa bouée de sauvetage. Elle a d'excellents rapports avec plusieurs professeurs de l'école. Son père, elle sait qui c'est, mais il ne s'est jamais occupé d'elle, il vit ailleurs. C'est clair que c'est très difficile pour elle, hors de l'école, de trouver des adultes référents, de trouver des modèles. Et cette jeune fille, elle va être extrêmement déçue par un de ses adultes, ce qui va la pousser dans une spirale de marginalisation jusqu'à toucher pratiquement le fond. Et au moment où elle va toucher le fond, il y a une figure masculine qui s'interpose et cette figure masculine, malheureusement, va l'entraîner dans une espèce de secte qui est liée à un mouvement djihadiste. Les trois autres nouvelles, elles
c'est une question qu'on se pose lorsqu'on lit Diagen, justement. Était-ce une volonté de votre part de montrer que parmi ceux des Européens qui se convertissent à l'islam plus à des idées qu'à une religion ou à des connaissances, on trouve beaucoup des jeunes un peu perdus dans leur vie et dans notre monde occidental et notre manière de fonctionner occidentale d'aujourd'hui, parce qu'au fond, cette jeune Jane, elle, c'est un peu ce qu'on appellerait avec des mots très crus une paumée avant de plonger.
Oui, alors j'ai fait d'énormes recherches, bien sûr, sur tout ça. J'ai beaucoup lu, et puis je me suis beaucoup intéressée aussi à l'image que donnaient deux individus d'une vingtaine d'années qui viennent de la même école que mes fils et qui ont été arrêtés à la frontière en retour de Syrie. Et je leur ai posé la question aussi. C'était un peu, c'était vraiment un cadeau du hasard entre guillemets. Mais enfin, quelle est la caractéristique de ces deux gars? Effectivement, ces deux gars sont passés par toutes sortes de choses, y compris drogue, y compris il y en a un qui était dans une autre secte avant d'être recruté, etc. Ils ont aussi un peu le même terrain, je dirais que Jane. Donc, à travers ça et à travers d'autres lectures que j'ai faites, ben, je me suis rendu compte que c'est une des caractéristiques. Il y a un moment donné où, déçus par leur environnement familial et autres, ils rencontrent une personne qui leur dit « Voilà, maintenant tu peux exister autrement et il y a une issue. » Bon, cette issue, c'est la mort et c'est ce qu'on leur propose, cette mort héroïque. Et puis, en même temps, on leur donne une identité nouvelle. C'est ce que certains analystes appellent la radicalisation express, c'est-à-dire on ne devient pas en fait un homme ou une femme pieux ou pieuse, on devient une machine à exécuter des ordres.
Et puis peut-être à se détruire. Enfin, c'est la question qu'on se pose en lisant cette nouvelle assez poignante, c'est de se dire qu'au fond, de choisir le suicide presque accompagné, c'est une forme de donner quelque chose à leur existence, parce qu'on sent que Jane, elle est complètement perdue et que le suicide aurait peut-être pu être, sans le djihad, une issue pour elle.
Oui, mais elle veut que ça soit un véritable feu d'artifice. Et puis, au fond d'elle, elle a des comptes à régler. Il y a aussi cette affaire de comptes à régler. Vous avez un contentieux avec... Elle revient dans son école. Alors, Et bien entendu, c'est assez effrayant. Qui aurait pensé, il y a encore quelques mois, cette affaire de camion à Nice? Donc, c'est parfaitement plausible. Tout est possible. Revenir dans son école, sa propre école, avec ses camarades ou les petits frères et petites sœurs de ses camarades, c'est possible. Donc, je pense que c'est ça. C'est une sorte d'apothéose. Elle ne veut pas. C'est comme un peu ces gens qui décident de suicider, mais auparavant, enfin, il y a Jacques Remond qui a fait ça dans notre région, auprès de Genève. C'est le roman d'Emmanuel Carrère qui explique très bien comment ça s'est passé. C'est ce type qui, tout d'un coup, dit « Non, moi, je me suicide, mais je liquide ma famille avant. » Il y a quelque chose de cet ordre là-dedans aussi.
Oui, alors, parce que je suis trop bavarde, là, on n'avance pas. Les autres, dans les autres nouvelles, vous avez choisi la mort, la procréation, et puis aussi la chirurgie esthétique.
Alors oui, c'était le lien, c'est le ton qui passe, et c'est peut-être cette idée que la vie n'est pas du tout un long fleuve tranquille, qu'à un moment donné, ben, on passe par un certain nombre d'étapes. Alors j'ai pensé à la procréation, bien entendu, la mort, l'aboutissement, puis entre deux, cette espèce de vaine tentative d'échapper à ce temps, et en fait, qui est une nouvelle forme, de mon point de vue, pour moi, c'est une nouvelle forme de maltraitance sur soi-même, plutôt que quelque chose. Là-dedans, il y a quelque chose que j'ai essayé d'exploiter, et j'ai trouvé une intrigue, parce que moi, contrairement à Catherine Levet, il me faut une intrigue, il me faut une chute. Il me faut un synopsis pour démarrer avec une écriture même d'une nouvelle. Ça peut être en trois lignes, mais il me faut quelque chose. Je sais où je vais. Après, je peux des fois sortir par une porte dérobée et je ne vais pas exactement. Et ou bien la chute, ce n'est pas le même ravin, etc. Mais il me faut pour démarrer ce genre d'ingrédients. Voilà.
Et c'est pour ça que mon travail, là, cet après-midi, n'est pas très facile, parce que le livre de Catherine est plus un livre d'introspection qui se lit, qui nous fait plonger dans l'univers, petit à petit, dans un certain rythme. Et Catherine, je vous laisserai ne pas être contente de mes questions si vous ne l'êtes pas. C'est pour moi assez difficile de vous poser des questions sur le livre, parce que je trouve qu'il ne faut vraiment pas le dévoiler, parce qu'il a une vraie musique et qu'il se lit au rythme de page tel qu'il se découvre. Donc si je reste sur des questions trop générales et que vous avez au contraire envie plus de parler du livre, n'hésitez pas à revenir. Moi, du coup, je voulais vous demander qu'est-ce qui vous a poussé, vous, quel est le moteur qui a déclenché en vous, qui faites des études de criminologie, des études qui auraient pu vous pousser vers là, justement, le polar ou l'enquête ou des livres ou une série romanesque, etc. Qu'est-ce qui a déclenché l'écriture en vous? Est-ce qu'il y a un moment, est-ce que vous écriviez depuis toute petite? Parce que on aurait pu vous imaginer juste auteur à temps plein et ayant fait des études de lettres, voyez-vous. Et votre parcours m'intrigue parce que je vous aurais plus vu, voilà, sur un polar comme livre.
Je vais vous laisser dans ce mystère, voilà. Très cruellement.
Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écriture? Quel moment?
Non, j'ai écrit depuis presque toujours, et je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais il a été très clair pour moi très vite que non seulement ce que j'écrivais, mais surtout ce que je lisais, je suis avant tout une très très grande lectrice, que c'était un territoire à la fois délicat, fragile, extraordinaire et très privé. Et c'est pour ça que je me suis gardée, lorsque j'ai fait des études, d'aller faire des études de lettres. Pour rien au monde, je ne serais allée faire des études de lettres, alors que la littérature était déjà ce qui comptait le plus dans ma vie, très jeune. Et c'est précisément, alors c'est toujours difficile d'expliquer les choses rétroactivement, parce que tout à coup on peut trouver des explications, surtout quand on prend de l'âge et puis qu'on commence à, hein, c'est comme dans un jeu de mystère, tout à coup les indices s'allument quelque part d'eux-mêmes et puis on est assez mûr ou un peu plus mûr pour les appréhender ou pour les comprendre mieux. Je dirais que pour moi, la question principale dans la vie, y compris dans ma propre vie, c'est un paradoxe, c'est-à-dire c'est de vivre les choses pleinement et dans le même temps d'être capable d'une incroyable distance. Et j'ai le sentiment que c'est ce qui est demandé à l'écrivain. C'est en tout cas ainsi que je me sens en tant qu'écrivain. C'est-à-dire que ce qui permet l'écriture, pour moi, c'est précisément la distance. Donc l'actualité, c'est là, c'est-à-dire c'est très loin. Vous voyez, toutes ces idées que je pourrais avoir, ces démonstrations que j'aimerais faire. J'écris par ailleurs des articles. Ceux d'entre vous qui sont intéressés peuvent aller sur mon site internet où voilà, je publie des chroniques, je publie des articles de réflexion sur le blog, notamment sur qu'est-ce que la littérature, sur la démarche de certains écrivains. Et là, j'ai un côté qui est beaucoup plus formel. De la même façon, dans mon métier que j'ai beaucoup pratiqué et avec lequel j'ai pris de la distance, non pas parce que je l'aime plus, mais parce que la littérature demande un temps de travail, de concentration absolument incroyable, eh bien, à cette époque-là, je construisais des articles. Et là, il faut être très précis, il faut démontrer, il faut aller de A à B. Et pour moi, la littérature est le territoire de la liberté, dans le sens où je vais surtout pas faire une écriture journalistique ou une écriture d'actualité. Alors, ça paraît merveilleux parce qu'on se dit, oui, c'est la liberté, et dans le même temps, c'est là que commence le risque. Et c'est là que commence aussi toute l'aventure d'un texte qui prend forme, forme, et surtout chez moi, parce que je le fais sans projet. Dès que j'ai un projet ou une idée, en me disant ce serait peut-être bien que j'aborde un chapitre comme ça, vous pouvez être sûr que peut-être je vais l'écrire, mais qu'ensuite il est poubellisé pratiquement immédiatement, pour laisser les personnages que je crée ou les atmosphères être elles-mêmes. Je ne veux pas prendre le contrôle ni le pouvoir sur mes personnages. Et je veux, dans cette distance que je vous expliquais, les respecter comme dans la vie, je suis amenée à respecter autrui qui est différent de moi et à entrer en interaction. Donc j'ai cette relation-là avec les personnages. Ils peuvent faire des choses, dire des choses, ne pas comprendre des choses que je comprends, mais eux ne les comprennent pas, et je vais me garder de les leur expliquer. Parce que sinon, il n'y a plus de vie. Et comme vous disiez, c'est un mouvement, cette écriture, c'est un rythme, et c'est vraiment les personnages qui conduisent cette histoire.
Je trouve que c'est merveilleusement bien résumé.
Merci.
Vraiment. Pour moi qui l'ai lu, pour vous, j'espère qu'il le lirait. Est-ce que, si je vous demande de choisir, si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé du tout, pour tout à l'heure, si je vous demande de choisir un petit extrait pour une lecture, vous vous sentez d'attaque de faire une petite lecture? Vous aimez ça ou pas du tout? Parce que je trouve que c'est le texte qui pourra aussi, en plus de ce que vous nous avez dit, nous donner un peu d'envie de découvrir cette narratrice, de découvrir Monsieur et Madame Rima aussi.
Vous savez, quand on écrit, on doit essayer d'être d'attaque le plus souvent possible, c'est-à-dire quotidiennement. Alors, il est bien évident que face à un public de lecteurs, d'ailleurs intéressés ou pas, peu importe, mais je lis très volontiers.
Bien sûr. Très bien. Je vous passe le livre. Est-ce que vous avez, avant que moi j'impose d'autres, est-ce que vous avez des questions déjà pour l'un ou l'autre de nos invités? C'est toujours un grand moment de silence, ça. Et puis la première question est toujours très difficile. Voilà, allez-y.
C'est pas tellement une question, c'est plutôt une remarque par rapport aux couleurs. Je trouve la question très intéressante. Mais cela dit, vous aimez donc ce gris parce qu'il a plusieurs variantes, etc. Mais en fait, chacune des couleurs a autant de variantes que le gris. Et vous restez sur le gris. Vous auriez pu prendre du bleu et la variété est aussi nombreuse que le gris. Donc voilà, je voulais
juste vous le partager, mais ce n'est pas vraiment une question. Merci. Monsieur ? Attendez, je vais vous amener le micro parce que vous êtes un petit peu...
Attiré par le titre de cette rencontre, « Brocarder la société contemporaine », je ne savais pas ce que ça voulait dire, brocarder. J'ai même posé la question à l'une des réceptionnistes. Et alors, je me suis dit, mais est-ce que la société contemporaine est brocardable? Est-ce qu'il y a des éléments dans cette société contemporaine pour être brocardée? Et lorsque vous avez fait votre intervention, vous avez dit que le contemporain, vous le tenez à distance. L'actualité, vous le tenez à... Si vous tenez cette actualité à l'écart, qu'est-ce qu'il y aura alors de brocardable?
Alors, merci pour votre question, monsieur. Je parle en mon nom propre et pas au nom de mes collègues parce qu'on a chacun notre ressenti. Voilà, on est dans une table ronde, on se connaît pas, et j'imagine que pour les organisateurs c'est très difficile de mettre différents livres ensemble et il faut bien trouver un titre. Voilà, donc il ne faut pas accorder au titre de la rencontre plus de valeur qu'il n'en a, à mon avis. D'autre part, brocarder, aussi loin que je sache, ça veut dire railler, ça veut dire moquer, ça veut dire le faire d'une façon extrêmement violente. Voilà. Alors, je vais être courte là-dessus. Mon intention n'est pas du tout de railler, de brocarder, de développer des thèses idéologiques dans un livre de littérature. Absolument pas. Le fait est, je ne sais pas si vous étiez là au début, je le disais, mes deux personnages âgés, monsieur et madame Riva, et je ne l'ai pas décidé par moi-même, ils l'ont imposé, ont une façon de se comporter et en particulier font preuve d'une qualité qui n'est pas extrêmement cotée sur le marché aujourd'hui et depuis longtemps et qui s'appelle la bonté. Et c'est une notion tellement vieillotte, tellement désuète, que malgré tout, apparemment, cette capacité qu'ils ont, cette essence, éclaire l'état de notre société contemporaine. Et je finirai juste par dire que pour moi, précisément, mon travail se passe dans la société contemporaine, c'est elle que j'observe, donc elle est absolument présente dans tous les livres que j'écris. En revanche, l'actualité, c'est autre chose. L'actualité, c'est ce qui nous prend les yeux, la tête, les angoisses jour après jour et qui nous empêche justement la fameuse distance dont je parlais tout à l'heure.
Et la bonté, j'ai trouvé en fait grâce à ce que vous venez de dire un peu le fil commun de vos trois livres, parce que le vôtre, il est bonté avec un grand B, mais au fond, la bonté on la retrouve aussi dans votre livre Jean-Paul, parce que vos personnages, grâce à leur bonté gratuite, vont sauver la vie d'un homme même si la personne est très âgée. Et la bonté, elle est aussi chez vous, parce que tous vos personnages tendent vers ou interviennent pour faire par bonté gratuite aussi. Enfin, peut-être pas dans la dernière, peut-être moins dans la petite écaille, mais...
Quoi?
Oui. Je vais laisser Jean-Paul répondre, parce que vous m'interrogez.
Moi, je vais y revenir sur le fait de brocarder, c'est vrai que quand j'ai vu le thème de la rencontre, je me dis, oula, brocarder. Dans quelle mesure je brocarde dans mes romans? Il y a une chose vraiment que j'aime mettre en avant, en exergue dans notre société, qui me chagrine et que j'aime bien piquer comme ça, que ce soit dans le liseur ou dans... Cette tendance à tout superficialiser, c'est-à-dire actuellement, il n'y a plus que ça qui compte, quoi, le superficiel. Le paraître, le faux semblant, et c'est toutes des choses qui me rendent vraiment cynique. Et ça, j'ai tendance à le mettre en avant parfois et à prouver. C'est déjà ce que je disais pour le liseur, c'est que l'habit ne fait pas le moine. Et ça, j'aime bien à chaque fois le démontrer. C'est vraiment après brocarder. Je vais pas écrire quelque chose en me disant. Qu'est-ce que je vais pouvoir brocarder cette fois-ci? Ça se fait naturellement. Moi, je m'installe à une terrasse de bistrot. Je suis un contemplatif passif. J'adore regarder sans intervenir. Et j'en prends plein les mirettes. Je fais l'éponge. Et après, j'appuie sur l'éponge quand je me mets à écrire. Et ce qui en sort, il y a des fois du brocardage. Parce que malheureusement, c'est vrai qu'on est témoin de choses parfois qu'on a envie de décrire et de contredire. Donc voilà. Mais je me sens pas l'âme d'un brocardeur professionnel, hein, du tout.
Alors, si dans les trois premières nouvelles, Olivier May ne brocarde pas trop, reste assez... Non, mais c'est vrai, ce sont des nouvelles assez poétiques, très différentes. Dans la dernière, c'est un autre questionnement, notre private joke, parce que alors, comme je ne veux pas trop vous décrire, parce que j'ai peur que si vous lisez après, vous allez perdre le suspense de la lecture, mais en même temps, s'il y en a un, et pour qu'on reste dans le thème, s'il y en a un qui brocarde, c'est bien vous. Le seul des trois qui brocarde vraiment, c'est bien, à mes yeux, Olivier May, dans la dernière nouvelle, celle qui traite justement de ce qui nous angoisse, qui nous préoccupe, qui nous perturbe. En tout cas, quand je regarde nos âges ici, peut-être toutes, peut-être pas vous, la chirurgie esthétique très présente autour de nous. Et là, vous brocardez.
Oui, alors ce que je brocarde, déjà, je brocarde la fameuse maxime « La fin justifie les moyens », qui est le titre de la nouvelle, et puis je l'ai fait signer par Mao Tse-tung, parce qu'il y a un célèbre texte de Mao Tse-tung dans lequel il explique que, grosso modo, à son époque, les Chinois sont déjà 600 millions, donc si pour le bonheur de 590 millions, on en liquide 10 millions, c'est pas si grave que ça, puisque la fin justifie les moyens, et j'essaie de retourner ça enfin, vous verrez dans quel contexte si vous lisez la nouvelle, c'est de retourner ça en disant c'est une arme qu'on pourrait effectivement utiliser tout en le faisant dans la bonté. C'est-à-dire la bonté pour délaisser pour compte au prix d'un espèce de pacte avec les nantis qui les oppriment. J'en dirai pas plus. Donc, effectivement, je brocarde cette accaparation de l'image par la chirurgie esthétique et au service des puissants. Puisque, en fait, dans certains pays dans lesquels je suis allé, on voit tout de suite les voilà, entre autres, on voit tout de suite les distinctions sociales à travers l'emploi ou non de la chirurgie esthétique. Même Dilma Rousseff y a passé. Voilà.
Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions avant que nous passions à un petit moment de lecture? Il ne faut pas hésiter si vous en avez, parce que c'est jamais évident de poser ces questions devant tout le monde. Ou alors on a peut-être déjà pas mal dit. Et comme l'objectif c'est quand même que vous alliez à la dédicace après, que vous découvriez les livres, que vous les lisiez, moi j'avais envie de finir sur un petit extrait de chacun des livres. Je trouve que ça finit bien votre journée. Et que ça correspond bien au livre. Alors, je ne sais pas trop dans quel ordre le faire, parce qu'alors, c'est une loterie, la lecture. C'est une loterie. Moi, j'aimerais bien finir sur la lecture de Catherine, mais ce ne serait pas juste pour ces messieurs qui seraient forcément jaloux de cette solidarité féminine. Alors, ce qui est un peu loterie dans ce cas-là, et je ne les connais pas aucun des trois auteurs, c'est qu'il y a toujours celui qui lit bien, et celui qui lit moins bien ou qui est stressé au moment de la lecture. Et alors, ce que moi je veux, qui est de vous faire découvrir un texte, une musique, une poésie, peut se transformer pour certains des livres en un massacre pur et simple. Moi, j'ai lu les trois, j'ai beaucoup aimé les trois, ils sont très différents, ils sont faciles à lire. Alors, si un vous paraît vraiment massacré, ne vous découragez pas, allez quand même jusqu'au fond des choses et lisez-le. Donc, du coup, ce qu'il aurait fallu, si j'avais su avant, c'était passer celui qui lit le mieux. Bon, milieu, genre, mais comme je ne sais pas qui lit comment, je vais laisser le mot de la fin à Catherine et je vais vous demander à vous de me lire. Je ne sais pas si vous avez déjà une idée d'un petit extrait d'une page, une page et demie que vous aimeriez lire dans le livre. Voilà, regardez. Est-ce que vous êtes Olivier, est-ce que vous aimez lire ou pas du tout?
J'aime bien lire, oui, à mes petits-enfants.
Ah, mais voilà. Voilà. Et vous avez une idée d'un extrait qui... De toute façon, aucun n'est représentatif du livre parce que le livre est très différent. Et les trois sont...
J'ai lu plusieurs extraits de Jia Jane et il y en a un qui a particulièrement frappé. C'était un public très jeune et qui aime bien quand il y a de l'action. Et qui, comme moi, est friand de séries télévisées.
Ah, mais on va lire celui-là. C'est lequel? C'est à quel moment?
Alors, c'est au moment où, tout d'un coup, on est plongé, sans qu'on connaisse Jane, on fait sa connaissance à travers sa courte expérience en Syrie, où elle est testée par le groupe qu'il a envoyé au combat.
Oh oui, il est très fort.
Ouais.
Oui, et il est très visuel. Ben, on y va, on commence avec vous.
Volontiers.
Kurdistan syrien, ligne de front, 6 mois plus tôt. Tu vois ce groupe qui court dans cette oliveraie, ma sœur? Ce sont des putains de leur race de meufs koufars, Allah. Des chiennes de chrétiennes qui cherchent à rejoindre les mécréants kurdes qui tiennent le village. Des femmes impies qui refusent le voile, Allah. Des putes au service de shaitans américains et des bâtards juifs. Tu es prête, ma sœur? Le combattant au trait maghrébin qui vient d'éructer ces mots avec un accent de la banlieue de Bruxelles crache sur le cadavre encore chaud d'une fillette qui semble dormir sur les ruines de sa maison, dans sa tenue colorée, pantalon bouffant, en tunique brodée. Sur son front, les hommes d'Abu Hassan al-Swisri ont gravé au couteau la lettre arabe Noun qui désigne les chrétiens. La nuit, les complices de l'État islamique, recrutés parmi les tribus sunnites en rupture avec le régime syrien, le peinent sur les maisons chrétiennes. Comme les étoiles de David, que leur modèle SA, organisation paramilitaire de l'Allemagne nazie, peignait sur les commerces juifs. La sœur ne dit rien. Elle acquiesce lentement du chef. Son visage demeure perplexe. Elle a revêtu le pantalon bouffant, la tunique brodée et le fichu d'une des captives chrétiennes qui servent de souillon et de femme de plaisir aux frères du djihad. Dans sa ceinture, elle a passé un petit pistolet mitrailleur Uzi de fabrication israélienne, pris sur le cadavre d'une peshmerga, une combattante kurde. Cheveux nattés et fichus à fleurs complètent son déguisement. Les enfants aussi ? Tu dis quoi, ma sœur ? De la graine de kaffir, de la mauvaise herbe du shaitan. Allah, pas de miséricorde pour le fils de la grande chienne. Récite les bons versets, ma sœur. Récite-les encore et va combattre pour la foi. La sœur se concentre et les mots sortent de sa bouche, en français. Et tuez-les où que vous les rencontriez et chassez-les d'où ils vous ont chassé. L'association est plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y aient combattu. S'ils vous y combattent, tuez-les donc. Telle est la rétribution des mécréants. Si le prophète a écrit ce verset sous la dictée d'Allah, comment lui échapper ? Elle se souvient de son prof qui leur avait fait lire quelques versets du Coran. Il soutenait que tout était question de contexte et que les djihadistes en occultaient sciemment d'autres qui parfois les contredisaient, comme celui-ci qui suivait le précédent et devait justement s'appliquer à des femmes et des enfants en fuite. S'il cesse, Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Il affirmait qu'il fallait les lire avec le regard scientifique de l'historien, à la fois comme les commandements d'un chef de guerre implacable, maître d'une nouvelle secte, et aussi comme les enseignements du prophète d'une nouvelle religion à vocation universaliste, destinée à ses fidèles du 7e siècle. Cependant, pour Jane, les enseignements de son prof, c'était dans une autre vie, et surtout dans un autre temps. Pour l'heure, le 7e siècle, on était en plein dedans. La sœur sait aussi ce que signifiera une nouvelle hésitation. Le Saoudien qui pratique les exécutions est un malade sexuel. Il passe son temps à violer les chrétiennes et les yézidis. En réalité, il désire par-dessous tout se taper une européenne. Soudain, elle se souvient d'un autre cours de français, celui-là, qui portait sur les expressions idiomatiques propres à une langue. Le silence est d'or, la parole est d'argent. Par contre, en espagnol, on dirait avec le même sens « en boca callada no entran moscas ». Dans une bouche fermée n'entre pas les mouches. Elle avait beaucoup aimé ce cours. Deux expressions de grand-mère qui pouvaient bien remonter au 7e siècle lui revenaient. Quand le vin est tiré, il faut le boire et boire la coupe jusqu'à la lie. Oui, elle doit le boire, ce vin-là. Elle l'a vendangé, piétiné dans la cuve, mis en cave, fait maturer durant 2 ans. Et elle le boira jusqu'à la lie. Allahu Akbar, ma sœur. Sur l'injonction de ce frère barbu, elle pousse un cri perçant comme un cri de guerre et se rue dans le livret. Les balles des frères sifflent autour d'elle, tout en lévitant, ce qui indique aux peshmerga d'en face qui tirent sur eux, retranchés derrière un muret, qu'elle a échappé aux hommes en noir. Les femmes du petit groupe tournent la tête. Elle la voit débouler en criant. L'une d'elles dit quelque chose en syriaque, la vieille langue des chrétiens d'Orient, qu'ils tiennent d'une civilisation autrement plus ancienne que l'islam, et se portent à sa rencontre. Les femmes et les enfants se planquent derrière le mur en ruine d'un bâtiment agricole. La femme arrive à la hauteur de la sœur qui n'a pas prévu cet acte de compassion. Sa mission risque de capoter. La femme s'arrête à quelques mètres, elle reconnaît des traits européens, elle comprend, elle tourne la tête et va crier un contre-ordre aux autres femmes. Mais la balle d'un sniper du djihad lui décalote le crâne.
Voilà. Merci. Et le piège se refermera donc pour cette fois-ci sur sa bonté à celle-ci.
On va faire intervenir le thanatopracteur maintenant. Parce que... Je vais être beaucoup
avec
plus
ça,
court.
Votre soirée est assurée.
Je vais c'est être beaucoup bon. Plus court et un peu plus jovial. Parce que là, c'est impressionnant.
Ouais.
Il n'y a pas besoin de clim, il fait bon. Ambroise se rendit dans la vaste salle de bain qu'il partageait avec Bette, se brossa les dents, se rasa, domestiqua sa tignasse noire et abondante à coups de gel avant d'asperger ses joues de 2 giclées d'après rasage. Suspendu au cintre accroché dans l'armoire, le costume de présentation l'attendait. Chemise blanche, cravate gris foncé, veste et pantalon noir. Il glissa ses 76 kilos à l'intérieur des habits repassés de frais. Les vêtements de protection qui constituaient le véritable costume de travail, celui que les gens ne voyaient jamais, viendraient plus tard, recouvrir le premier comme une seconde peau. Pour l'instant, seul comptait l'apparence, ne pas effrayer, être aussi lisse que possible, un fantôme. Voilà ce à quoi il devait s'efforcer de ressembler. Un fantôme en costard-cravate qui ne devait pas laisser dans son sillage plus de souvenirs qu'une ombre passagère. Satisfait de l'image que lui renvoyait le miroir au-dessus de l'évier, Ambroise se dirigea vers la sortie, les précieuses mallettes se balançant au bout de ses bras. Un touriste en partance pour un pays lointain, pensa-t-il en souriant. Son sourire s'agrandit en apercevant Bette plantée au milieu du couloir. Quelle que soit l'heure et malgré toutes les précautions qu'il déployait pour être le plus discret possible, il trouvait toujours la vieille femme sur son chemin au moment de quitter l'appartement, lui offrant sa mine radieuse. Il plia son 1m80 afin de permettre à sa grand-mère de déposer sur son front le baiser du jour et de glisser dans le creux de son oreille ce « va » qui sonnait à chaque fois comme une bénédiction. Plus n'aurait servi à rien. L'unique syllabe abritait toute la tendresse du monde.
On a quoi, 2 minutes?
Faites comme vous le sentez. Ah, pardon, excusez-moi.
L'après-rasage. De l'après-rasage. Oui, pardon.
Vous ne voulez pas dire la marque?
J'ai pas dit marque.
Vous n'avez
pas de marque, j'ai pas le droit.
Et il n'a pas dit l'avantage.
Non.
C'est l'avantage, Catherine, d'être la dernière? Vous pouvez choisir votre temps. Nous avons 5 minutes, 5-6 minutes, voilà, maximum.
Je ne vais pas lire autant. Merci.
Je vais simplement lire le début. Pour ceux qui l'ont déjà entendu, je m'en excuse. Mes chapitres, exceptionnellement, ont tous un titre. Dans ce livre-là. Toutes sortes d'événements peuvent survenir dans une gare. J'ai rencontré pour la première fois monsieur et madame Riva à la gare de L. Nous étions en avril. Le couple s'avançait vers notre groupe en se tenant par le bras, la main tremblante de madame Riva appuyée sur le poignet maigre de monsieur Riva. Je me souviens parfaitement de ce que j'ai pensé en les voyant approcher, pourvu que ces deux-là ne fassent pas partie du voyage, pourvu que. C'est ce que j'ai souhaité dans un flash, non pas que leur allure fût plus pitoyable que celle des voyageurs déjà présents, âgés pour la plupart, mais il émanait de ce couple une étrange conjugaison de fragilité et de dignité qui n'était pas de bon augure pour ce genre de déplacement collectif. J'avais accepté de remplacer mon amie Laetitia au pied levé, et ce n'était pas l'amitié qui m'y avait poussé, mais l'état de mes finances. Je hais les voyages en groupe, je méprise tous ces gens qui veulent admirer à heure dite, s'amuser à heure dite et surtout manger, mais cette haine et ce mépris n'avaient rien pesé lorsque Laetitia m'avait appelée pour me dire que son dos la faisait trop souffrir, que j'allais donc pouvoir, grâce à sa défection, me faire un peu d'argent facile et bienvenu, et que de toute façon, Alexis Berg prendrait la responsabilité de la croisière. Elle avait précisé que je n'aurais rien d'autre à faire que de veiller sur des hamsters, c'est le mot qu'elle avait choisi. Tu sais, comment ça marche avec ces animaux ? Avait-elle enchaîné. Il faut que la roue tourne, tu changes la paille et tu rajoutes des graines et de l'eau. Le ciel qui ne m'écoute jamais et se moque de moi la plupart du temps m'avait entendu cet après-midi-là à la gare. Monsieur et madame Riva, dont j'ignorais encore tout jusqu'à leur nom, ont en effet mis le cap sur moi, alors même qu'Alexis Berg, qui portait aussi sur sa poitrine la plaquette prétentieuse du voyagiste qui nous employait, sortait clairement du lot en tant qu'homme de la situation. Haut de taille, le cou pris dans une cravate rouge, il distribuait badges et documentation, souriant à ses vieillards comme s'il faisait face à un banc de sirènes fraîchement surgi de l'eau. J'imagine que si les Riva ont choisi de s'adresser à moi plutôt qu'à Alexis, c'est parce que le souhait que j'avais laissé échapper en les voyant approcher n'était pas allé se dissoudre au contact de l'air mais avait filé droit sur eux, faisant en quelque sorte passer un invisible signal du rouge au vert. Mademoiselle, a dit Monsieur Riva d'une voix étonnamment claire en arrivant à ma hauteur. Mon épouse et moi-même sommes venus vous dire bonjour et au revoir. Le vieil homme avait ensuite voulu me saisir la main, mais je l'avais retirée sans savoir pourquoi, avant de la lui tendre enfin, à peu près poliment, me rappelant que j'avais signé un contrat pour un poste temporaire. Ses yeux d'un bleu sec n'avaient rien d'implorant, au contraire, on le sentait sûr de lui, pressé d'accomplir un acte obligé en y mettant les formes, avant de s'en retourner, avec cette femme accrochée au bras, à une vie qu'il serait sans doute le dernier à vouloir décrire. Je m'explique d'autant moins mon mouvement de recul que j'ai toujours été charmée par l'emploi du mademoiselle dans la bouche de certains hommes âgés. Là où tant de femmes n'y voient qu'un usage suranné, condescendant, voire humiliant, j'y goûte pour ma part comme à une étincelle de la vie, celle qui annonce non pas qu'un feu pourrait brûler encore, mais bien qu'il brûle et brûlera jusqu'à la mort. J'aurais pu dire des mots de bienvenue aux nouveaux arrivants, après tout on me payait pour cela, mais je me suis tue, anticipant que Monsieur Riva s'en passerait, lui qui venait de m'annoncer, après avoir serré ma main fuyante avec chaleur, qu'ils étaient respectivement Monsieur et Madame Riva, domiciliés à C, inscrits pour la croisière en Méditerranée, organisée par la compagnie Dream Water World, là où la vie est plus bleue, avait-il ajouté en lisant stoïquement à voix haute le badge épinglé sur mon t-shirt. Mon épouse et moi-même avons décidé de renoncer à ce voyage, a dit M. Riva.
Merci beaucoup.
Voilà, merci à vous. Les trois auteurs vont se rendre maintenant sous le chapiteau, dans la chaleur. Et vous avec, je l'espère, pour la dédicace, parce que les livres ne sont disponibles que sous le chapiteau. Alors, je ne vais pas vous rappeler une chose un peu banale, mais très juste, que le livre est aussi une très bonne idée de cadeau, qui coûte moins cher qu'un bouquet de fleurs et qui dure bien plus longtemps. Alors, un cadeau dédicacé, c'est encore mieux. Donc, à vous de voir. Merci beaucoup à nos auteurs pour ce temps qu'ils nous ont accordé. Et puis, bonne continuation, Morges.
Merci à vous. Merci.